portrait de la Vierge Marie dans le temple. Et non pas la présentation. C'est une stupidité de dire présentation, car la présentation des enfants au temple ne concernait que les mâles dans l'Ancien Testament, et les premiers-nés des mâles. Donc c'est stupide de dire présentation de la Vierge, mais on fait l'erreur en Occident, en Orient. Rassurez-vous, dans tous les bouquins, on trouve l'erreur. C'est l'entrée de la Vierge dans le temple. Ça n'est arrivé qu'une fois dans toute l'histoire humaine. Ça n'arrivera plus. C'est une fois, point. L'origine de cette fête, elle est essentiellement, comme souvent dans les fêtes chrétiennes, dans l'anniversaire de la dédicace d'une église à Jérusalem, à l'époque de Justinien, au milieu du VIe siècle, en 543. Donc on a fait l'anniversaire, c'est devenu la fête de l'entrée de la Vierge au Temple, comme souvent. Et les éléments que nous avons venant de la tradition se trouvent dans un apocryphe qui s'appelle le proto-évangile de Saint Jacques de Jérusalem. Alors, les apocryphes ne sont pas canoniques, donc on ne les lit pas canoniquement dans la liturgie. Mais on peut les lire d'une façon non officielle, et tout à l'heure on lira du pupitre des chantres la partie qui raconte cet événement, qui est très 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 importante. Toute la tradition concernant Marie et ses parents nous vient de là, uniquement. Et si vous allez en Grèce, c'est peut-être pareil en Roumanie, mais je connais la Grèce, pratiquement dans toutes les églises, tous les murs sont peints de fresques, on raconte la vie de Marie. C'est tiré du proto-évangile de Saint-Jacques. Il y a un équivalent latin qui s'appelle le pseudo-Matthieu, mais c'est la traduction du proto-évangile de Saint-Jacques. Alors, on a une occurrence très belle avec le deuxième dimanche de l'Avent, presque tous les ans. Ce qui est intéressant, parce que l'Avent est le temps de la préparation à Noël. Et donc, ça tombe très très bien. Je vous ai longuement parlé les autres années de tous les aspects multiples de cette fête. Cette année, je voudrais me recentrer sur deux groupes de personnages et un lieu. Deux groupes de personnages, des parents, c'est Joachim et Anne, et un enfant, une petite fille, qui s'appelle Marie, mais c'est deux groupes de personnages. Et puis un lieu, c'est le temple. Alors, les personnages. Qu'est-ce qu'il y a de plus banal, de plus normal, de plus vital qu'un couple et leur enfant? C'est une chose tout à fait normale, c'est classique. Et pourtant, dans cet événement, tout est miraculeux. Il n'y a absolument rien de classique. Alors ça mérite qu'on s'attarde dessus, qu'on en prenne conscience. Joachim et Anne sont des gens âgés et stériles. Âgés et stériles. Et à ce titre, ils symbolisent, ils représentent l'humanité déchue. La nature humaine déchue. La nature humaine vieillie par le péché. Il n'y a pas de vieillesse dans le ciel. Il n'y a que des gens jeunes parmi les saints. Et le Christ, il a 33 ans pour l'éternité dans sa nature humaine. Il n'y a pas de vieux, on ne vieillit pas. C'est le péché qui nous fait vieillir. Ça représente l'humanité qui a perdu la jeunesse, la vigueur, la beauté, l'énergie. Voilà ce qu'il représente. Et stérile, incapable de porter du fruit. Le péché rend stérile. Il nous empêche de coopérer à l'œuvre de Dieu. L'homme cesse d'être créateur par le péché, alors qu'il est appelé le créateur. C'est ça qu'il représente, d'abord Joachim et Anne. Il faut bien voir que c'est l'image de nous. C'est l'humanité telle qu'elle est. Et puis il y a une petite fille de 3 ans. 3 ans, c'est tout juste le moment, je ne me tromperai pas beaucoup, vous me reprendrez les dames tout à l'heure, c'est juste le moment où on commence, on vient juste d'apprendre à marcher et à parler. Donc on ne peut rien faire par soi-même à 3 ans, on est totalement dépendant. Alors voilà ce groupe très, tout à fait disparate, c'est quand même deux vieillards puis une toute petite fille. Tout cela n'est que l'apparence extérieure. Ce qui change tout, c'est le plan divin, le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu de sauver l'homme. D'une part, et la volonté libre de l'homme. C'est ça qui est le cœur du sujet. Et c'est ça que nous allons vivre dans la liturgie. Donc je dis un mot de cela. Le dessein de Dieu de sauver l'homme, sa créature élue, sa créature chérie, sa préférée. Pourquoi on a une telle faveur? C'est pas parce qu'on est extraordinaire. Les démons nous méprisent beaucoup. Mais l'homme a ceci d'unique, c'est qu'il réunit le ciel et la terre. Il est terrestre par son corps, il porte le cosmos en lui, il est céleste par son âme. Vous avez vu, on est tout droit. On a la tête dans le ciel et les pieds sur la terre. L'homme réunit le ciel et la terre. Le Christ, le Fils de Dieu, va s'incarner. Homme, pour réunir Dieu et l'homme. Voilà ce qu'il y a de grand dans l'homme. Voilà ce que Dieu, la divine Trinité, aime et chérit particulièrement. Dieu veut sauver l'homme. Si vous êtes attentif au texte des Pères, surtout dans le canon de Saint Basile, dès qu'il parle de la chute, aussitôt Saint Basile dit « Mais tu avais déjà prévu le salut de l'homme. » Tous les Pères le disent, l'expriment. Mais Dieu ne veut pas sauver l'homme sans sa coopération, sans sa volonté libre. Dieu ne veut pas imposer le salut. Ce qui est octroyé gratuitement est en général méprisé. Vous savez, quand on est très riche, on reçoit tout, on se moque de tout. On ne prend plus d'intérêt pour rien, parce qu'on a tout, et parce que ça ne nous a pas coûté d'efforts. Et tout ce qui nous a coûté des efforts est précieux. Et l'amour est ce qui demande le plus d'efforts, le plus d'assaise et le plus de mort à soi-même. Dieu veut sauver l'homme, mais pas sans sa volonté libre. Alors je reviens à nos deux groupes de personnages. Joachim et Anne, c'est vrai qu'ils sont vieux. C'est vrai qu'ils sont stériles. C'est vrai que. Mais ce sont des justes. Voilà la nouveauté. Ce sont des justes en Israël. Ils sont le produit de toute la lignée des justes depuis Abraham. Depuis qu'il y a eu un homme, Abraham, qui a écouté Dieu. Pourquoi il est si grand, Abraham? Écoutez Dieu. Et il a rejeté les idoles. Ça, c'est le pas de géant que l'humanité fait pour retrouver sa relation avec Dieu, son intimité, pour retrouver la liberté, pour retrouver le bonheur. Il y a un gars qui a écouté, Abraham. 1800 ans avant. Et 1800 ans d'efforts d'Israël ont produit ce que nous appelons les justes. Des gens droits, propres, purs, dont le centre est Dieu. Qui ne s'est pas encore révélé comme Trinité, c'est en filigrane. Mais Dieu, ils attendent le Messie. Il y a une purification progressive de l'humanité dans le peuple d'Israël. Israël fait cela pour toute l'humanité. Et ces gens-là, Joachim et Anne, nous le savons par le proto-évangile, s'aiment d'un grand amour. Ils sont très très amoureux l'un de l'autre. C'est un vrai couple. C'est pas un couple de façade, formel, pour la société, pour faire bien, pour avoir ceci ou cela. Ils s'aiment. C'est ça un couple, sinon il n'y a rien. Ils s'aiment. Mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? C'est qu'ils ont un amour que nous appelons, dans la théologie, chaste. Ça ne veut pas dire qu'on ne fasse pas l'amour, c'est ridicule. Chaste, ça veut dire qu'ils ne sont pas centrés sur eux-mêmes, mais sur Dieu. Ils se souviennent que cet amour qu'ils partagent vient de Dieu. Et que le but est l'union à Dieu. C'est ça l'amour chaste. Ils n'ont pas évacué Dieu. Ils sont centrés sur Dieu. Or, cet amour ne produit aucun fruit. Ils sont stériles. Être stérile en Israël était une opprobre. Parce que chaque couple juif espérait engendrer le Messie. C'était la fonction d'Israël d'engendrer le Messie. C'était le destin du peuple juif. Et être stérile était une opprobre. Et voilà pourquoi ils veulent à tout prix engendrer. Mais ils veulent engendrer pas pour satisfaire un désir qui est parfaitement légitime. Quand on sait, on a envie d'avoir un enfant. C'est tout à fait normal, c'est bien. Mais c'est pas pour ça. C'est pas pour s'accomplir eux-mêmes. Ils veulent engendrer pour être agréables à Dieu. Déjà ça, c'est formidable. Parce qu'ils auraient parfaitement le droit de vouloir engendrer pour eux-mêmes. Mais c'est bien plus que cela. C'est pour être agréable à Dieu. Vous avez un amour qui n'est pas centré sur toi et toi, mais sur Dieu. On veut d'abord te servir et t'aimer. Alors il crie vers Dieu. C'est formidable. Relisez le contre-évangile de Saint-Jacques. Il pleure, il crie, il se démène. Joachim, il part au désert. Il dit, je ne ferai rien, je ne mange plus, je ne bois plus, tant que tu ne m'auras pas parlé, Seigneur. Formidable. Anne, elle pleure, elle se lamente. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ils font un effort gigantesque. Et Dieu entend. Le Seigneur entend, il entend les cris, il voit les larmes, il a pitié et il les visite. Et il leur dit par la voix de l'ange, vous allez concevoir. Ils se jettent dans les bras l'un de l'autre, vous savez, c'est la belle icône de Joachim et Anne qui s'embrassent. La seule icône, on voit un couple s'embrasser. Mais voilà, deuxième chose extraordinaire, ils sont si heureux qu'ils promettent d'offrir leur enfant à Dieu. Premier miracle. C'est incroyable. Ils promettent d'offrir leur enfant à Dieu. Alors qu'ils ont tellement désiré cet enfant-là, tellement attendu, ce qu'il y a de plus précieux au monde. Anne dit que ce soit un garçon ou une fille, on l'offrira à Dieu. L'enfant né, c'est la fête du 8 septembre. C'est une fille. Vous avez remarqué qu'Anne ne se lamente pas, elle ne se dit pas, oh, c'est pas un garçon. C'est Dieu qui est envoyé. Elle sait que ce n'est pas le Messie, mais elle est tellement dans la joie. C'est le don de Dieu, cette petite fille. Marie. Et lorsque la petite fille a 3 ans, déjà l'année d'avant, à 2 ans, Joachim dit à Anne, on a fait une promesse à Dieu, il faut la remplir. Et Anne dit une chose incroyable. Elle dit non, attendons encore un an qu'elle soit capable de reconnaître ses parents. Donc ça ne se fera pas en douce. On ne va pas la subtiliser, puis qu'on la met dans le temple. Qu'elle soit capable de reconnaître papa et maman. Alors on attend 3 ans, et alors ils accomplissent leur promesse. Voilà, toutes les vierges d'Israël accompagnent la petite fille, et c'est l'icône, vous voyez, toutes les vierges d'Israël. Et eux, ils sont derrière, ils sont au fond. Ça ne leur appartient plus, ils ont donné. Voyez. Et puis, le prêtre, dans le temple, Zacharie, reçoit la petite fille. Ils offrent réellement ce qu'ils ont de plus précieux au monde. Ça, c'est le deuxième miracle. Mesdames, ils ont voulu un enfant pour être agréable à Dieu, ils l'ont et l'offrent à Dieu. Ils ne gardent rien pour eux-mêmes. Ils sont vieux. Deuxième miracle. Et cette petite fille, Marie, dont le proto-évangile de Jacques nous dit qu'elle a été préparée de 1000 façons à cette mission par ses parents. Il y avait un mode de vie tout à fait spécial. Donc on a respecté le rituel mosaïque complètement pour que tout soit pur, entre guillemets, c'était pur au sens rituel. Elle était préparée à cette mission dès le sein de sa mère. Cette petite fille qui arrive à l'entrée du temple, bon, il y a 2 fois des marches, hein. Il y a les premières marches avant le premier voile et les deuxièmes marches avant le deuxième voile. La petite fille va monter les marches 4 à 4. Elle ne se retourne pas. Elle danse devant l'arche, ce qui correspondrait à notre autel. Elle danse pour être agréable à Dieu. Elle danse devant le second voile, c'est-à-dire juste devant le Saint des Saints. Elle y restera jusqu'à 16 ans, se nourrissant de lire la Bible, de filer la pourpre, ce qui est l'annonce de sa maternité virginale. Vous savez, la tradition dit qu'elle a tisser le voile du temple au moment de la mort du Christ va se déchirer. C'est le symbole du sang, symbole de la matière vivante de l'homme. Et il s'en nourrit par la main d'un ange. Vous voyez, sur toutes les icônes, on voit un ange qui descend, dans un petit point du temple, et l'ange lui apporte un pain. Troisième miracle. Cette petite fille va se donner à Dieu d'elle-même. Sans se retourner, sans regarder en arrière ce qu'avait fait la femme de Lot, sans s'attacher au passé, elle ne regarde que devant et ne regarde que Dieu. C'est le troisième miracle. On peut dire qu'un quatrième miracle, que je vais laisser de côté ici, c'est que le grand prêtre Zacharie va la recevoir. Vous savez, le clergé se montre humble, ce qui ne sera pas toujours dans la vie du Christ. Humble et obéissant à l'Esprit Saint, car c'est le Saint-Esprit qui dit Zacharie, prends-la, c'est la volonté de Dieu. Parce qu'une petite fille ne peut pas entrer dans le temple, non. Surtout pas une femme, à une époque. La femme représente l'humanité. C'est la femme qui est le symbole de l'humanité, c'est elle qui féconde, c'est pas l'homme. L'homme, dans la symbolique polynienne, représente le Christ. C'est pour ça que seuls les hommes sont appelés à la prêtrise. Cette petite fille se précipite et danse devant Dieu. Elle représente l'humanité qui se fait belle pour Dieu. Je me souviens d'une homélie admirable de l'évêque Jean il y a 30 ou 40 ans, où il parlait de la femme qui se fait belle et il disait « Toute femme, même une prostituée inconsciemment, quand elle se fait belle, représente l'humanité qui se fait belle pour Dieu. » Ça, c'est une chose magnifique. Toute l'humanité qui se fait belle pour Dieu. Marie rachète Ève. Qui a délaissé Dieu? Elle écoutait Satan. Donc elle a délaissé son amoureux. Marie rachète Ève. C'est parce que l'humanité, représentée par Israël, a été capable d'engendrer Marie. Nous avons engendré Marie. C'est parce que Marie s'est offerte librement à Dieu que l'incarnation du Verbe a pu se faire. Dieu ne pouvait pas, ne voulait pas imposer l'incarnation. Je vais te visiter, mais si tu me veux. C'est parce que cette petite fille s'est donnée à Dieu que Dieu s'est donné à l'homme. Oui, c'est quelque chose de très important que nous faisons aujourd'hui. Cette petite fille de 3 ans, Marie, elle représente à la fois le destin de l'homme et le dessein de Dieu. En elle, il y a la coïncidence, l'occurrence des deux choses. Volonté libre de Dieu, volonté libre de l'homme. Et le temple, je vais terminer sur le temple. Le temple, c'est la maison où Dieu aime habiter avec les hommes. Le lieu de la présence et de la gloire de Dieu sur terre. Le temple annonçait l'Église, et l'Église annonce le royaume de Dieu. Lorsque la gloire du Seigneur descendait dans le Saint des Saints, on ne peut pas entrer. C'était la lumière de la transfiguration, ce sont les énergies divines à créer. On ne pouvait pas entrer. Mais ce temple de Jérusalem, vous voyez, on représente ici avec une construction. Ce temple de Jérusalem, il est aussi une image symbolique de Marie, qui va devenir le temple vivant de Dieu. Son corps et son âme vont devenir le temple de Dieu, temple vivant. Parce qu'elle va accueillir dans son sein le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut. Et nous pouvons même dire cette chose audacieuse, c'est plus que le Saint des Saints. Parce que dans le Saint des Saints descendait, lorsque le Seigneur le voulait, la gloire incréée de Dieu. Mais en Marie, ce n'est pas seulement la gloire incréée de Dieu, c'est une personne divine. C'est le Fils du Père qui descend. C'est plus. C'est Dieu lui-même. Pas seulement ses énergies, c'est Dieu lui-même. Cette fête, c'est le commencement du salut. Vous avez entendu ? Le très beau trop-père byzantin qui nous sert de grande antienne dans les offices occidentaux, c'est le commencement du salut. C'est l'annonce du salut. À partir du jour où Marie est entrée dans le temple, librement, tout est redevenu possible. Et à Dieu soit la gloire pour les siècles.